RCF. Bonjour à toutes et à tous. Un bien ami animait il y a quelques jours une soirée sur l'économie de l'attention. Je me suis alors naturellement interrogé sur ce que pouvait recouvrir cette forme d'économie que je ne connaissais pas. Et bien m'en a pris puisque j'ai découvert sous ce vocable que l'on voulait parler de la captation économique de notre attention. Ce que le président de TF1 il y a quelques dizaines d'années avait parfaitement résumé en disant que sa chaîne de télé vendait du temps de cerveau disponible. Mais depuis le Tout TV, il y a désormais le tout écran sur lequel on passe de plus en plus de temps, avec le paradoxe suivant qu'est on essaye de nous faire passer le moins de temps possible sur chacune des applications pour visiter le plus de sites possible et donc générer des achats qui deviennent plus ou moins compulsifs. Une économie donc qui vient aussi pomper notre temps de travail, peut-être même notre rentabilité. Mais au-delà de cet aspect économique, qu'en est-il de la relation interpersonnelle? Faisons-nous des rencontres vraies uniquement par le prisme de l'écran? C'est la question qui se pose. Peut-on construire une relation professionnelle à distance qui soit confiante et bienveillante? Et est-ce uniquement par le biais de Skype, Facebook, Workplace et autres réseaux sociaux que l'on peut construire cette relation humaine? Quid donc de la palabre, de ce moment privilégié des cultures méditerranéennes où avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien on boit un petit verre, du thé à la menthe, on parle de la famille, des enfants, tout ça pour arriver ensuite au cœur du sujet. Ma réflexion est donc de me dire qu'une économie de l'attention ne peut faire l'économie de l'intention. En bref, faire un numérique au service de l'homme avant que cela ne soit lui qui nous asservisse. Et avec l'arrivée des chats GPT et autres technologie de l'IA, eh bien je pense que nous entrons dans une ère où il faut se méfier, où notre rapport à la machine va transformer notre vision et notre appréhension du monde. Vous rajoutez à cela la réalité virtuelle, eh bien je pense que le film Matrix n'est pas très très loin. C'est donc pour cela que cette semaine, eh bien on va pas du tout parler de numérique, on va parler de tourisme, de mobilité, d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, puisque cette semaine, c'est la semaine mondiale, la journée mondiale de l'accessibilité. Allez, bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions, le magazine des acteurs et des actrices du changement. Cette semaine, vous l'avez compris dans l'édito, on va évoquer la question de l'accessibilité, de la mobilité des personnes en situation de handicap, comment les territoires, les villes s'engagent sur ce terrain, comment elles doivent répondre à la loi de 2005 qui impose à l'ensemble des structures publiques de s'adapter pour accueillir ces personnes à mobilité réduite et pas que. Et puis aussi, le tourisme des personnes en situation de handicap, c'est quoi? Quels enjeux pour les territoires? Est-ce qu'il y a un enjeu business aussi? Ce sont des vraies questions qu'on va essayer de se poser dans le dossier de l'écho des solutions avec nos trois invités. Et puis, en fin d'émission, eh bien, je vous inviterai à découvrir ou redécouvrir une très très belle initiative qui existe depuis déjà de nombreuses dizaines d'années en région nantaise. C'est un reportage qu'on est allé faire sur place. C'est la péniche Cap Vert, une péniche qui a été construite pour permettre à des personnes en situation de handicap et lourdement handicapées de pouvoir passer un moment de vacances et de naviguer sur cette belle rivière qu'est l'Erdre. Et on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Soria Compagnie. Avec elle, nous allons essayer d'évoquer le point d'étape où on en est aujourd'hui depuis la loi de 2005 imposant aux villes et aux structures accueillant du public eh bien, de s'adapter à des accessibilités qui soient plus inclusives. On fait le point avec Soria Compagnie. Elle est notre invité écho de cette semaine.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Et je suis donc avec Soria Compagnie. Bonjour Soria.
Bonjour Patrick.
Alors Soria Compagnie, vous êtes notre invité écho de cette semaine. Vous êtes présidente fondatrice de l'APACT, l'Association pour l'approbation de l'accessibilité et la conception pour tous. Vous êtes aujourd'hui consultante en accessibilité conception par le biais de la formation et de l'accompagnement et du conseil. Juste une petite question pour commencer. La loi de 2005, on sait bien qu'elle est intervenue pour permettre l'accessibilité à tous et pour tous. Mais on en est août, cette loi de 2005, en ce jour, en ce 30 avril, journée mondiale de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap?
La grande loi handicap de 2005 était quand même une loi exceptionnelle pour l'accessibilité dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Elle a créé beaucoup d'espoir. À l'échéance de 2015, tous les lieux d'activité ouverts au public, les transports publics, etc., devaient être rendus accessibles. On était de même aussi pour les communications publiques en ligne. Mais on est à 18 ans après la loi 2005. Et on se pose quand même la question sur le sujet d'accessibilité. Et le constat n'est pas dans l'ensemble très positif. Par exemple, si je prends un exemple très courant, malgré les évolutions technologiques, il y a encore particulièrement compliqué, voire impossible pour certaines personnes de téléphoner ou de consulter un site internet. Alors qu'évidemment maintenant, de plus en plus, le numérique s'impose dans notre vie quotidienne. Les personnes en situation de handicap, ou il faut pas oublier les personnes âgées, hein, les personnes en âge avancé aussi, ne peuvent pas bénéficier des services en ligne.
Alors justement, c'est ça qui est intéressant dans cette démarche. D'abord l'accessibilité, et vous venez de le dire, ce n'est pas uniquement le fait d'accéder aux lieux publics, ça s'en fait partie bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Ça prend aussi en compte la notion d'accessibilité numérique.
Tout à fait, puisque l'accessibilité n'est pas uniquement pour les personnes qui se trouvent sur un fauteuil roulant. L'accessibilité, c'est pour toute personne qui, en raison de la situation, de l'environnement dans lequel elles se trouvent, elles ne peuvent pas accéder aux services et aux activités de la société. Alors, ça peut concerner les personnes handicapées moteurs, mais aussi les personnes qui ont des difficultés à voir, à entendre, les personnes qui ont un handicap mental, ou tout simplement les personnes, moi je vais plus loin, les personnes qui, à un moment donné, en raison d'un problème de santé, un accident ou n'importe, se trouvent dans une situation où peuvent pas avoir un certain nombre, peuvent pas bénéficier d'un certain nombre de services dans la société.
Mais est-ce que justement cette question, ce retard pris sur la loi de 2005, est-ce que ce retard n'est pas lié au fait que peut-être on a conçu cette loi en oubliant ou en se focalisant peut-être uniquement sur le fauteuil, sur les personnes à mobilité réduite et pas sur la totalité des handicaps? Ou est-ce que la technologie et les nouvelles technologies sont venues aussi percuter? Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce qu'on sait pourquoi c'est si compliqué pour les usagers, est-ce qu'on sait exactement pourquoi c'est compliqué aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs de s'adapter?
Alors, juste une précision, c'est que la loi de 2005 rappelle que l'accessibilité concerne toutes les situations de handicap. Et la loi de 2005 reconnaît que l'environnement peut-être un obstacle, l'environnement dans lequel on vit, peut-être un obstacle à l'accès aux activités de la société pour les personnes en situation de handicap. Et la loi précise qu'il s'agit handicap moteur, handicap auditif, visuel, handicap mental, handicap psychique, des maladies invalidantes.
Mais est-ce que justement le fait que ça ne progresse pas aussi rapidement qu'on le souhaite n'est pas lié au fait que la multiplicité des handicaps est telle que finalement on est presque au cas par cas et qu'une entité, je vais prendre une bibliothèque qui doit s'adapter, elle doit s'adapter à cette dizaine et dizaine de situations différentes?
Oula,
j'exagère peut-être.
Je vois pas du tout les choses comme ça. Quand vous prenez l'exemple d'une bibliothèque, quand on conçoit une bibliothèque, il y a le bâtiment de bibliothèque, mais il y a aussi les équipements dans la bibliothèque, et puis il y a les livres, évidemment, dans la bibliothèque. Chaque élément doit être conçu dès le départ, et ça, c'est ce qui est prévu, ce que la France a retenu à travers la Convention internationale des droits des personnes handicapées que la France a signée, et en droit français, c'est que dès la conception de chaque produit et service, il faut intégrer la notion de l'accessibilité. Alors, évidemment, la notion de l'accessibilité est large, mais ça n'empêche pas de faire à la fois de prévoir un ascenseur accessible, et que dans l'ascenseur, on met des mesures pour que les personnes avec une déficience auditive ou déficience visuelle puissent facilement utiliser l'ascenseur.
Alors là, on est sur la conception, mais on sait que c'est parfois plus facile de concevoir que de réparer choses. On arrive au terme de cet échange, Soraya Compagnie. Quels sont pour vous les enjeux là dans les 5 prochaines années qu'il faut relever, récupérer le retard peut-être?
Il faut récupérer le retard, mais il y a un élément que je n'ai pas cité et je tiens à mentionner, c'est la question du logement. Les personnes handicapées sont doublement pénalisées et en matière de logement. Elles sont pénalisées parce qu'il y a une crise du logement d'une manière générale. Je ne parle pas de crise actuelle, mais d'une manière générale, il y a une crise de logement. Et puis, il y a une crise de logement accessible. Donc, vous voyez, c'est un des éléments sur lesquels il faut vraiment que nous travaillions. C'est la question du logement, la question ensuite du transport, la question des équipements et puis la communication en ligne qui est large, c'est-à-dire Internet, etc.
Et la mise en place des réseaux, des services publics aussi pour pouvoir accéder de l'ensemble des réseaux. On s'aperçoit d'ailleurs que souvent les nouvelles technologies, ce sont souvent les acteurs privés qui sont plus en avance parfois que les services publics qui ont encore un gros travail à faire. Merci beaucoup Soraya Compagnie d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et vous venez par votre intervention d'ouvrir la porte à notre dossier puisqu'on va parler de tourisme et de handicap dans le dossier de l'éco des solutions. Merci beaucoup encore Soraya Compagnie. Nous on continue avec Pierre Collignon.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Voilà, on est avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors il y a un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Les sondages le confirment, en particulier pour la jeune génération, où plus de 40% revendiquent qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie.
Comme je l'ai déjà dit ici à plusieurs occasions, je crois qu'il ne faut pas opposer les générations, même s'il est incontestable que les plus jeunes ont des aspirations que nous n'avions peut-être pas, en tout cas tous au même âge. Nous rêvions d'un travail qui avait du sens, un travail épanouissant dans lequel notre créativité serait sollicitée ou qui nous permettrait de vivre de façon équilibrée autant que faire se peut entre le bureau d'un côté et la famille.
Alors on ne peut pas nier quand même que le contexte a changé, la financiarisation des entreprises, la crise environnementale, la mondialisation sont passées par là et on pourrait peut-être même rajouter un peu le Covid aussi.
Oui, c'est indéniable, mais cela ne change pas nos aspirations profondes et il est normal que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale soit une aspiration fondamentale de chacun d'entre nous. J'ajoute que comme dirigeant d'entreprise, en tout cas aux EDC, nous pensons que nous avons une vraie responsabilité vis-à-vis des familles de nos collaborateurs. La première d'ailleurs est de fournir à chacun un travail de qualité et de donner un salaire juste. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr.
Alors l'entreprise, en revanche, Pierre, doit-elle aller jusqu'à organiser les rythmes et les temps de repos nécessaires pour que les familles puissent se retrouver ?
Oui, bien sûr, valoriser la vie familiale implique que c'est aux responsables de l'entreprise d'imaginer des adaptations utiles et nécessaires pour laisser aux salariés le temps et les possibilités exigées par la priorité consentie à la vie familiale. Concrètement, on peut mettre en place des horaires flexibles, adaptés, du travail à distance ou à temps partiel. On peut même prendre en compte des engagements hors travail, des temps de repos ou de pause, etc.
Alors dans cette réflexion, une attention particulière doit-elle être portée à ceux et celles qui ont en charge des enfants ou des personnes âgées et malades ?
Avec toute la délicatesse nécessaire, bien sûr, car l'employeur ne peut pas s'immiscer dans la vie personnelle de ses collaborateurs. Ce sont des points particuliers qu'il faut prendre en compte. Au lieu de devenir source de culpabilisation stérile, la prise en compte de ces situations et le soutien concret, y compris dans l'entreprise, des charges de chacun, peuvent devenir source d'attachement et d'intégration dans la communauté plus large du travail. Un nombre grandissant d'entrepreneurs prend conscience du fait que l'harmonie entre la vie privée et la vie professionnelle dépend du bonheur trouvé dans chacun de ces domaines qui sont interdépendants.
Mais évidemment, tout cela doit fonctionner dans les deux sens, non ?
Oui, parce que se sentir performant au travail, reconnu, bien à sa place, a une influence positive sur la personne dans sa vie familiale. De son côté, le bien-être familial du salarié a aussi une influence positive sur ses performances au travail. C'est donc un devoir moral de contribuer autant que faire se peut au bien-être matériel, physique, moral, intellectuel et même spirituel des salariés. Ce fut le début de l'entrepreneuriat social dès le 19e siècle et au-delà des caricatures qu'on en a fait, vous savez, on parlait beaucoup de paternalisme, eh bien, il reposait sur l'idée que pour chaque personne, le travail, comme la vie familiale, sont des sources et des lieux de construction d'une vie heureuse. C'est donc, je le crois, une idée ancienne, mais plus que jamais d'actualité, et à laquelle il faut sans cesse être attentif.
Merci beaucoup Pierre pour ce rappel de l'équilibre vie pro, vie perso. Chacun a un devoir à accomplir, et encore faut-il qu'il puisse le faire de manière qualitative. Voilà, nous on fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec nos invités pour parler d'une question qui va être au cœur, et qui sont déjà d'ailleurs au cœur des préoccupations d'un certain nombre de villes, c'est pouvoir accueillir les touristes, bien évidemment, mais surtout et aussi les touristes en situation de handicap. Tourisme et handicap, c'est le thème du dossier. On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Ya estoy buscando un melado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito.
Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta para lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río, yo me río.
No tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y mando la cuenta a los shows, el party ni el pasaporte. Estoy más dura, dicen los reportes.
Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé. Espérame ahí, que yo soy idiota.
Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota.
Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito.
Shakira, Shakira.
Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve. Tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me llueve. Ni quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía.
Feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía.
C'était TQG par Carole G sur RCF. On ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions avec nos trois invités pour parler tourisme et handicap.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine. Cette semaine, nous allons donc nous intéresser à la question du tourisme et du handicap dans nos territoires. Comment on les appréhende? Quels sont ceux et celles qui voyagent? Quelles sont les offres touristiques qu'on peut leur proposer? C'est ce qu'on va voir avec nos trois invités. Je vous les présente très rapidement. Ils sont répartis sur l'ensemble de notre territoire, si merveilleux qu'est la France. Alors, on commence avec vous. Tout d'abord, Claude Blauw-Poncé, vous êtes en charge à l'Agence de développement de l'Hérault, de l'Agence de développement économique de l'Hérault, de la question du tourisme, de l'accessibilité et du handicap. Vous êtes aussi chercheuse à l'Université de Perpignan sur justement ces questions de handicap et de tourisme. Bonjour Claude.
Bonjour.
Merci donc d'être avec nous. À La Rochelle, David Amiot, vous êtes chercheur et vous êtes en charge d'une cellule de l'Université de La Rochelle qui s'appelle Genova et qui a pour but de viser à améliorer l'accessibilité des personnes en situation de handicap, que ce soit au sein d'entreprises privées ou de collectivités territoriales. Bonjour David.
Bonjour.
Et puis avec nous aussi, Étienne Pavard. Vous êtes un acteur de l'activité de l'économie touristique, puisque vous êtes directeur de Vivre le Répit en famille. Ce sont des lieux d'accueil, des sortes de villages vacances, des VVF qui, j'essaye de trouver des comparaisons, hein, Étienne, qui permettent aux personnes en situation de handicap, mais surtout à l'ensemble de la famille, de pouvoir prendre un temps de repos, et on appelle ça aussi de répit parce qu'on sait combien la charge pour les aidants est forte tout au long de l'année. Bonjour Étienne.
Bonjour, merci.
David Amiot, la question, vous êtes donc docteur en géographie, vous accompagnez les villes et les collectivités sur cette question de l'accessibilité et du handicap de manière assez généraliste. Et nous, on va s'intéresser à la question du tourisme. La question du tourisme, est-ce que c'est le prisme de départ des collectivités quand elles veulent penser la question de l'accessibilité, David ?
Alors, au départ, les communes souhaitent répondre à l'obligation de la loi de 2005 sur le handicap pour pouvoir mettre en accessibilité ce que l'on appelle la chaîne du déplacement, donc la voirie, les transports en commun et les bâtiments, pour que les personnes puissent se déplacer depuis leur lieu de résidence et pouvoir réaliser leurs activités du quotidien, mais aussi les activités du hors quotidien, donc du coup le tourisme et les loisirs.
Mmh. Et c'est compliqué aujourd'hui sur la question du tourisme et des loisirs pour les villes d'impacter leur territoire. Est-ce qu'elles ont conscience qu'elles ont un besoin de s'adapter mieux pour pouvoir accueillir les touristes en situation de handicap ou en fragilité, mieux, parce qu'on pense aussi, et ça, Soraya Compagny nous le disait à l'instant, il y a les personnes en situation de handicap, mais il y a aussi les seniors qui sont aussi en fragilité, qui ne sont pas forcément tous en situation de handicap, mais qui ont besoin aussi de moyens d'accessibilité plus simples que quand on est en meilleure santé ou plus jeune.
Oui, tout à fait. Dans les, pour les communes donc, qui se saisissent de cette question et qui ont une démarche très volontariste, le sujet du tourisme est une réelle porte d'entrée. En fait, elle permet de réunir autour de la table des acteurs des communes, des acteurs de la communauté de communes ou d'agglomération, du département, de la région, et donc de trouver une porte d'entrée qui permet à la fois de répondre aux besoins des résidents, parce que ça c'est important, des habitants de la commune, et également des personnes qui viennent en tant que touristes. Et lors des les études le montrent que les personnes en situation de handicap qui se déplacent, elles se déplacent en tant que touristes, mais avec leur unité familiale. Mmh. Donc dire avec les accompagnants, les aidants, femmes, maris, enfants. Donc du coup, c'est toute une unité qui se déplace. Et en termes de retombées économiques, il y a l'idée quand même pour les communes et les territoires d'allier justice sociale et développement économique.
Et ben on fait le lien avec vous, Claude Blau-Ponce. Vous êtes donc à l'Agence de développement économique de l'Hérault. Claude, justement, David vient de parler de cette dynamique économique. À l'Agence de développement économique, on prend en compte le tourisme en situation de handicap. Est-ce que c'est, et je vais peut-être être un peu dur comme ça, mais est-ce que c'est une manne touristique et donc de retombées économiques que les départements, que les régions utilisent ou étudient assez peu le tourisme des personnes en situation de handicap parce que finalement ce serait peut-être pas assez rentable. Excusez-moi, c'est un peu dur hein, ce que je dis.
Hein. Non, bah, nous dans le département de l'Hérault, on a toujours vraiment voulu s'intéresser à cette clientèle à besoins spécifiques parce que évidemment c'est dans le cadre de politiques fortes hein, d'accueil de tous les publics et d'un tourisme pour tous. Mais en même temps, on a toujours parlé de clientèle. On n'a pas parlé en fin de compte donc de personnes en capacité faible ou des personnes différentes. Mmh. Donc moi, le terme clientèle n'est pas un gros mot, mmh. Au contraire. Par contre, vous avez totalement raison, la difficulté que nous avons, c'est de toucher cette clientèle-là. Et c'est vrai que dans le cadre du tourisme, le tourisme allie la vie quotidienne à des points d'intérêt dans une destination touristique. Et la difficulté, tout à l'heure, le premier intervenant l'a dit en parlant de la chaîne du déplacement, c'est vraiment comment on va aborder en fin de compte cette question-là. Mmh. Donc les départements et les destinations sont prêtes évidemment à travailler sur du tourisme pour tous, hein, pour répondre à des objectifs tout ce qui concerne donc le tourisme pour tous, mais avec cette grande difficulté de comment on aborde cette question-là. Donc, autant par rapport à, en amont, à quelle information on donne, est-ce que l'ensemble des sites Internet sont accessibles pour l'ensemble des déficiences, comment, en fin de compte, on peut travailler sur les services touristiques qui vont être amenés sur la destination touristique, parce que c'est bien beau de labelliser un site ou un équipement, mais si la chaîne du déplacement n'est pas, évidemment...
Alors, qu'est-ce que vous appelez la chaîne du déplacement ? Ça veut dire depuis le domicile pour arriver jusqu'à vous dans l'Hérault, Claude, c'est ça ?
Totalement. Donc, ça va inclure les transports, ça va inclure évidemment l'ensemble donc des maillons d'une chaîne touristique qui permet à un touriste de pouvoir aborder son séjour en toute quiétude.
David Amiot, justement, cette fameuse chaîne des mobilités, du déplacement, c'est vous qui allez y travailler avec les villes. Comment on fait ? Parce que là, vous travaillez sur des collectivités, mais sur des collectivités plus larges. Par exemple, je pars de Nantes, je veux aller à Montpellier en vacances. Comment justement cette ingénierie du déplacement est prise en compte ? C'est vous avec votre petite cellule qui y travaillez ou qui pouvez y travailler ?
Du coup, c'est en étant là, en tout cas par rapport à la cellule, c'est en étant en conseil, en accompagnement auprès des collectivités en fonction de leurs demandes. En prenant des exemples très concrets, la ville de Lourdes avec le plan Avenir relance la destination Lourdes avec un investissement de l'État, et justement la ville s'investit pour pouvoir améliorer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et le tourisme.
Mais quand on voit par exemple le réseau SNCF et vous mentionnez Lourdes, et c'est finalement peut-être l'un des meilleurs exemples qui soit aujourd'hui, quand on voit partir des pèlerins et des personnes en situation de handicap à Lourdes, c'est ce que j'entends, je ne sais pas si aujourd'hui il y a eu de l'amélioration ou pas, mais ce que j'entends c'est les trains, c'est pas les meilleurs trains. Deuxièmement, il n'y a pas de train équipé qui permette de bien accueillir ces personnes-là. Et trois, on leur donne des créneaux extrêmement fatigants, c'est-à-dire le point à point qui permettrait d'aller vite à destination pour des personnes qui sont fatigables et fragilisées. C'est embêtant. Ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Alors là, je prends quelque chose pour Lourdes, hein, mais c'est une vraie question aujourd'hui du parcours du combattant de la mobilité.
Tout à fait. Au niveau de la chaîne de déplacement qu'on évoquait tout à l'heure, qui est inscrite dans la loi de 2005, et donc qui permet d'identifier un parcours depuis son domicile jusqu'au lieu où on souhaite aller, un point B, on peut, en fait, au niveau méthodologique, augmenter cette chaîne de déplacement, en parlant de chaîne de déplacement touristique. Et là, du coup, ce qu'il est important de regarder, et l'accompagnement qui peut être fait auprès des collectivités, c'est de les aider à voir quel est tout le processus de voyage que le touriste va engager dès le début. L'amorce, c'est vers quelle destination je souhaite aller. Donc, comment préparer son voyage, le préparer en autonomie. Est-ce que depuis Internet, je peux avoir accès à des informations ?
C'est ça.
Est-ce que je peux appeler sur site l'office de tourisme pour avoir des informations sur l'hôtel, l'hébergement, le taxi, éventuellement des aidants sur site. Ensuite, il y a la capacité à pouvoir choisir librement son mode de déplacement entre le point A et le point B. Effectivement, quand une personne souhaite se déplacer en train, par exemple pour aller de Paris à Lourdes, une personne qui est déficiente visuelle ou déficiente motrice va appeler Accès Libre, le service de la SNCF. On va devoir organiser son voyage. Déjà pour tout à chacun, on doit organiser son déplacement, mais là, pour une personne qui est en situation de handicap, le voyage se prépare en amont, en prenant en compte ce temps entre la demande et la possibilité d'avoir accès à un service particulier.
Je vais faire réagir Claude qui veut prendre la parole, et puis après Étienne, parce que je sais que c'est une aussi des freins que vous pouvez constater chez Répit Vacances Famille. Vive le répit en famille, pardon, excusez-moi Étienne. Claude, vous vouliez réagir à ce que disait David ?
Oui, totalement. Préparer son voyage, c'est pourquoi dans les destinations touristiques et les départements ou régions, nous valorisons une marque nationale, la seule qui existe, qui est la marque nationale Tourisme et Handicap, qui permet en fin de compte, en toute autonomie, de pouvoir justement organiser et vivre ses vacances au quotidien. Donc cette marque nationale, elle est volontaire et elle se décline selon les 4 types de déficiences, moteur, mental, visuel ou auditif. Et nous avons une marque national de territoire, Destination pour tous. Et là, nous, dans le département de l'Hérault, nous avons 3 destinations touristiques qui sont labellisées Destination pour tous et qui, là, en fin de compte, associent les services de la vie quotidienne,
Destination pour
du déplacement Destination et évidemment pour... l'offre de séjour.
Destination pour tous, Claude, c'est une marque spécifique de territoire de l'Hérault ou c'est une marque de territoire nationale ?
Non, c'est une marque nationale qui est en cours de révision actuellement. Mmh. Et c'est une marque qui, justement, a permis de se dire, mais c'est bien beau de labelliser, en fin de compte, un site ou une prestation, mais si les services de la vie quotidienne dans cette destination ne sont pas appropriés, il n'est pas possible d'être libre d'agir, de se mouvoir.
Vous parliez justement de cette accessibilité des territoires. On sent bien que l'Hérault a fait un gros travail et on le voit bien, hein, parce qu'avec l'ensemble du littoral que vous avez et puis même l'intérieur du département avec des sites touristiques importants, on ne voit pas aujourd'hui en termes de communication touristique, et je suis un peu plus sensibilisé à cela puisque c'est mon parcours d'origine avant d'arriver à faire du journalisme, on ne voit pas dans le métro finalement au moment des grandes campagnes de communication, des campagnes de communication avec des fauteuils roulants, avec des personnes en situation de handicap ou une canne blanche pour dire bah, venez dans l'Hérault, finalement c'est possible. Pourquoi on a encore un peu peur ou on n'y pense pas tout simplement?
Je ne pense pas qu'on n'y pense pas. Avoir peur, peut-être pas, mais comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que c'est pas une seule niche de clientèle qui va en fin de compte ne pas avoir les mêmes entre guillemets campagnes de communication que le reste de la population? Donc je pense qu'il fallait au-delà. Voilà, il faudrait aller au-delà de la personne en situation de handicap pour aller vraiment s'ouvrir à de l'accessibilité universelle ou dire que les avantages ou les améliorations qui sont portées à la mise en accessibilité profitent à tous. Et là, je crois que c'est encore un changement de regard et qu'on n'en est pas arrivé là.
Étienne Pavard, vous vouliez donc réagir vous aussi, hein.
Oui, merci. Ben, je vais rebondir sur le changement de regard. On en reparlera peut-être, mais je pense effectivement, Madame Blaupensé a raison là-dessus. On sent que des choses frémissent sur ce sujet, mais là, il y a un chemin encore à
parcourir,
à accomplir. Mmh. Toutefois, et peut-être le premier rebond, c'est ce que nous vivons dans les établissements, en tout cas, c'est lorsqu'on est entre guillemets accessible, accueillant pour les personnes en situation de handicap et leurs proches, c'est agréable pour tout le monde, y compris les vacanciers, si je puis dire, ordinaires ou valides. Donc, ce gain-là. Dans l'esprit des vacances accessibles à tous, il est réel. Mmh. Peut-être qu'on n'a pas forcément besoin de cibler et de créer des vacances dédiées, mais plutôt de faire en sorte que les parcours de loisirs soient réellement accessibles à tous. Mmh. Et c'est, je pense, la demande en termes d'inclusion aussi des familles. Après, notre point, effectivement, ce que nous essayons de travailler, pour revenir à ce que disait aussi Monsieur Amiot tout à l'heure, c'est que la mise en réseau des acteurs, c'est la clé sur les territoires autour de l'offre pour pouvoir développer une expérience qui, de bout en bout, soit efficace et heureuse pour les familles. Et il y a beaucoup de ruptures encore aujourd'hui dans ces parcours-là. Et ça commence, effectivement, on l'évoquait, par l'acheminement. Nous, c'est le principal point, l'acheminement, entre le domicile et le lieu de séjour.
Il y a le cheminement, Étienne, et il y a aussi la, j'ai envie de dire le frein psychologique du départ, parce que
le premier départ,
c'est-à-dire partir, se mettre en branle, se dire tiens, il va falloir que je pense aller à transporter mon fauteuil, à trouver des médecins sur place, à trouver etc., parce que qui dit situation de handicap, pas toujours bien évidemment, mais qui dit situation de handicap dit parfois aussi des soins, et quand on change de lieu, c'est pas facile de retrouver le kiné qui va être présent, qui va pouvoir vous recevoir, et Dieu sait si aujourd'hui c'est compliqué de trouver un médecin ou des auxiliaires de santé.
Exactement, ça, pour tout à chacun, et particulièrement dans ce cas. Alors effectivement, et ça c'est l'expérience un peu VRF, effectivement, qui dit le premier départ, c'est extraordinaire, et c'est le projet de vacances, c'est quelque chose d'enrichissant, de dynamisant, donc ça c'est la bonne chose, mais c'est vrai que, comme vous l'évoquiez, c'est difficile, en tout cas il y a un taux d'effort pour chacun de préparer ses vacances, et c'est particulièrement vrai lorsque on a une perte d'autonomie, quelle qu'elle soit finalement, et je vais parler un peu par exemple pour notre expérience VRF, un premier départ pour des personnes qui souvent n'ont pas quitté le domicile depuis quelques années parfois, on va avoir un besoin de contact assez long à plusieurs reprises pour pouvoir un petit peu sécuriser ou comment dire rassurer mm-hmm. sur la capacité à accueillir, et on va aider aussi justement à l'organisation de cet acheminement en propre moyen avec son propre véhicule. C'est quelquefois rassurant parce qu'on a ses petites affaires dedans. Mmh. Donc voilà. Et puis ou autrement effectivement avec le transport collectif et ensuite la reprise en point à point. Mmh. Ça c'est quand même le frein. Une fois que les premiers départs ont pu être faits, on voit que les familles repartent un peu plus facilement les années suivantes. Mmh. Mais le taux d'effort, on peut l'appeler comme ça, le taux d'effort au démarrage est un peu plus important, et on a encore un chemin là-dessus.
David Amiot, comment vous vous y prenez avec Genova pour accompagner les villes? Comment, concrètement parlant, vous mettez en action leurs besoins de conseils en accessibilité?
Eh bien, tout d'abord, on réalise un diagnostic d'accessibilité pour pouvoir décrire l'ensemble de la chaîne de déplacement, décrire la voirie, la décrire de façon cartographique pour les aider à ensuite voir où sont situés les obstacles d'accessibilité, tant dans les transports en commun que sur la voirie et les bâtiments, et ensuite les aider à rédiger un plan d'action et concrétiser tout ça au sein de plans pluriannuels d'investissement pour pouvoir avoir un budget qui permet année après année de réaliser des travaux d'aménagement, d'entretenir également la voirie et de pouvoir améliorer petit à petit l'accessibilité, mais l'améliorer pour les villes. Ce qui est difficile, c'est que les villes sont étendues, les villes sont anciennes au niveau historique justement.
Ce serait mieux de travailler sur des villes nouvelles qui sortent de terre, ce serait plus simple.
Tout à fait, mais encore, même parfois dans des travaux neufs, on peut avoir des difficultés d'accessibilité, puisque l'accessibilité est plurielle au niveau des prises en compte des handicaps, et qu'elle évolue également, parce qu'entre la loi de 2005 et aujourd'hui, on prend encore plus en compte les déficiences cognitives ou invisibles également. Donc du coup, même dans l'aménagement, il y a des choses qui sont plus fines pour apprendre tous les handicaps. En tout cas, c'est vrai que par exemple, mettre en accessibilité une ville historique avec beaucoup de monuments historiques.
C'est compliqué, c'est plus compliqué, voilà, c'est plus complexe. Claude, vous vouliez réagir à ce que disait justement David?
Oui, j'allais dire à David, totalement d'accord, il faut redéfinir les stratégies touristiques, c'est que nous essayons cela dans le département de l'Hérault et au-delà, en Occitanie, avec redéfinir la qualité du service, de l'accueil, requalifier l'offre touristique, d'où l'importance de ces deux marques nationales, mais en même temps, au-delà, de travailler vraiment sur l'ensemble, en fin de compte, des incontournables du tourisme. Et pour ce faire, vous parliez tout à l'heure de guides de services adaptés, chaque office de tourisme, donc, qui est labellisé et tourisme handicap doit avoir sur sa destination un guide d'accueil adapté qui permet en fin de compte de faire un recensement et de l'offre labellisée et de l'offre repérée accessible.
Mais est-ce que vous travaillez, excusez-moi je vous coupe Claude, mais parce que d'abord le temps file et que j'ai plein d'autres questions encore à vous poser et que je vais être frustré comme toutes les semaines, mais est-ce que vous travaillez par exemple, on sait bien que la période estivale est un temps de pic touristique, donc évidemment on fait plus attention à l'offre globale, et je pense que ce soit les médecins, que ce soit les kinés, que ce soit les bars, que ce soit les restaurants, les hôtels, savent qu'ils vont y avoir. Est-ce que vous travaillez, vous, Claude, à aller adresser ces publics, ces personnes spécifiques que peuvent être les médecins, les kinés, en leur disant attention, il va y avoir des personnes en situation de handicap, réserver des créneaux pour que, essayer d'être plus agile que vous ne l'êtes d'habitude, parce que ces personnes-là, elles viennent aussi passer des vacances, et si c'est compliqué pour elles, elles reviendront peut-être pas.
Non, on ne peut pas travailler directement avec
les... Je parle avec les fédérations, je parle de...
Avec les fédérations, on peut. On essaye de sensibiliser, on travaille vraiment sur des campagnes en amont, mais plutôt, en fin de compte, sur le territoire grâce à l'Office de tourisme, avec des réunions de sensibilisation auprès de l'ensemble des prestataires. Mais c'est vrai que je pense qu'on pêche par, tout à l'heure, notre personne l'a dit, sur la mise en réseau. Je crois que la mise en réseau est vraiment la clé, peut-être, pour faire une chaîne touristique la plus continue possible.
C'est votre grand dada, Claude, chaîne touristique, c'est-à-dire depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée, jusqu'au point de retour.
Totalement. Et en même temps, je crois que le problème que nous avons aussi, c'est comment toucher ces personnes en situation de handicap. Parce que on peut toucher les grandes fédérations et les grandes associations, mais les individuels qui ne le sont pas, on a un gros souci quand même, en fin de compte, de fréquentation. Donc nous, nos sites labellisés Tourisme Handicap nous disent, nous avons fait les efforts, mais on n'a pas assez, en fin de compte, de clientèle qui viennent permettre de pouvoir justement faire évoluer un petit peu les prestations.
Ouais. Donc maintenant, il faut faire savoir. Retrouve... Ouais, c'est vraiment la vraie question. Étienne va peut-être me confirmer ça. La vraie question maintenant, c'est de faire connaître, de faire savoir que vous pouvez, et on le fait d'ailleurs par le biais de cette émission, on peut aller dans l'Hérault, mais on peut aller aussi dans d'autres destinations, on peut aller chez vous aussi, Étienne. C'est ça la vraie problématique aujourd'hui, c'est pas le fait de ne pas avoir les endroits adaptés, c'est le fait de savoir que ces endroits adaptés existent.
Oui, exactement, il faut le faire savoir. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à toucher les personne directement, et on a aussi de la saisonnalité, bien entendu, ça reste des vacances. Il y a des éléments, enfin il y a des progrès là-dessus. Plutôt, là encore, je vais revenir sur, comme le dit Claude, sur le réseau, c'est que pour toucher ces personnes aujourd'hui, il faut se rapprocher de ceux qui les connaissent. Et je pense aux aidants par exemple, mais autres. Donc ce sont les acteurs de santé, les acteurs de proximité, les plateformes de répit, potentiellement dans des situations particulières, les CCAS. Enfin, ce sont ces collectivités locales, entre guillemets, et ces acteurs locaux qui animent les familles dans leur réseau de proximité. C'est avec ces personnes-là qu'il faut réussir à travailler. Mais c'est vrai que, alors je vais parler de notre modèle par exemple, où nous, pour rejoindre la question sur comment on garantit, si on peut dire, ou comment on propose aux familles de bénéficier d'un support matériel, médical, médico-social pendant ce séjour, c'est qu'on crée autour de nos établissements ce réseau, on internalise aussi une partie, en particulier une équipe médico-sociale par exemple, mais petit à petit, ce sont deux mondes qui se parlaient pas, le médico-social et le tourisme. Mais on sent que la volonté des acteurs, la volonté des élus locaux font que petit à petit, ces barrières-là commencent.
Vous arrivez, vous aussi, à aller donc dialoguer avec les offices de tourisme des lieux où sont implantés vos villages.
On le fait. Alors, je vais citer une situation, par exemple, à Tours, qui rejoint un peu ce qu'on évoquait tout de suite de villes pas faciles d'accès toujours. Alors, faciles d'accès, en train, en autoroute, etc. Par contre, sur place, on est sur une ville ancienne. Il y a des sites merveilleux à Tours et dans la région de Tours qui sont difficilement accessibles. Par contre, on y travaille et la ville se mobilise et la métropole se mobilise sur justement l'accessibilité des sites et créer des parcours qui soient
accessibles
également
pour les familles. Je vais vous couper, Étienne, parce qu'on arrive vraiment au terme de cette émission. Je suis sûr qu'il y aurait plein d'autres choses à dire, mais j'ai une question à chacun avec une réponse courte. Et je vais commencer par vous, David. S'il y avait un levier, un enjeu que vous souhaiteriez, j'ai envie de dire avec un coup de baguette magique, changer ou voir évoluer rapidement, qu'est-ce que ce serait, David ? Très rapidement.
Bon, ce qui est important là pour les enjeux à venir, c'est de vraiment permettre au territoire de donner une lecture d'itinéraire de parcours touristique pour les personnes en situation de handicap et que ça soit bien ancré au niveau d'un territoire comme le propose la marque Destination pour tous, que les gens aient une vraie lecture, une vraie visibilité sur l'offre et sur l'itinéraire proposé.
Un peu comme les chemins de grande randonnée, il y aurait une indication pour dire que là, il y a des chemins d'accessibilité de grande randonnée ou pas. Claude, ce serait quoi pour vous?
Oui, pour moi, ça serait connaître pour mieux accueillir et surtout, en fin de compte, travailler sur une méthodologie globale et commune. Parce qu'actuellement, les territoires sont un peu éclatés et l'idée, c'est autour de la marque Destination pour tous, c'est d'une méthodologie commune à mettre en place.
Et le mot de la fin pour vous, Étienne, très rapidement, parce qu'on a déjà dépassé les timings.
On est là, une marque et une expérience un peu partagée comme ça, effectivement, c'est la clé. Et un petit changement de paradigme pour que le tourisme est encore très validiste. Donc, je pense qu'on a encore besoin de renforcer le fait que
ce que disait Claude, qui doit être pour tous, qui doit être pour tous et plus inclusif, en tout cas, qui n'oppose pas les deux, voilà, tout simplement, mais qui les prenne dans leur ensemble. Merci à tous les trois. C'était très frustrant. On aurait voulu passer beaucoup plus de temps avec chacun d'entre vous. Nous, on continue tout de suite avec Maxime Dupont pour sa chronique. chronique un max déco. Et puis, pour les 7 minutes pour changer le monde, eh ben, je vous propose de partir à bord de la péniche Cap Vert sur l'Erdre pour aller découvrir justement un mode de tourisme à destination des personnes en situation de handicap. Merci Claude Blau-Poncet, merci David Amiot, merci Étienne Pavard. On continue tout de suite avec Maxime Dupont.
Merci.
Maxime Dupont.
Et on retrouve Maxime Dupont pour sa chronique, un max déco. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Alors on est très heureux de vous retrouver. Vous êtes plein d'ondes positives hein, aujourd'hui parce que cette semaine, exercice de prédiction macroéconomique avec Jacques Attali.
Oui Patrick, lequel Jacques Attali a publié il y a deux semaines un billet au titre « Résolument optimiste » comme vous le lisiez pour tenter de conjurer la morosité ambiance. Le titre de ce billet est « Une immense crise financière menace ». Et cette crise est annoncée pour cet été. Profitez donc bien de vos vacances, Patrick.
Alors, j'ai rien en finance, donc je risque pas grand-chose, mais ça risque de mettre en péril notre pays et notre État et notre économie. Alors, quelles sont les raisons qui expliqueraient cette crise qui s'annonce, Maxime ?
Un certain nombre de fondamentaux macroéconomiques américains qui sont très mal orientés. On commence avec la dette publique des États-Unis qui explose et empêche le Trésor américain de continuer à emprunter. Gloops. On enchaîne avec la dette privée qui atteint 89% du revenu disponible des ménages américains dans une situation qui rappelle en pire les années 2007 et 2008, date, vous vous en souvenez, de la dernière crise financière. Regloops. On continue avec l'endettement des promoteurs immobiliers, lui aussi complètement intenable avec l'envolée des taux d'intérêt. Regloops. Et on termine avec la fragilisation du système bancaire américain. Ça fait beaucoup de gloops.
Alors, ces gloops occupent tout ça. Hein. Il faut donc se préparer à un effet domino, Maxime ?
Oui, où tout partirait donc des États-Unis, comme en 2008. Et si la crise financière que tout annonce éclate aux États-Unis, les conséquences seront bien sûr planétaires, en particulier pour l'Europe et la Chine, qui perdraient un énorme marché d'exportation. La croissance atone que connaissent nos pays ne réussirait pas à compenser ces pertes. Et c'est donc toute l'économie mondiale qui va tanguer très fort.
Mais peut-on éviter cette perspective dramatique, Maxime ?
Oui, nous dit Jacques Attali, on peut, alors c'est la bonne nouvelle. Bon, ensuite, quand on regarde les leviers activés pour éviter cette perspective, on relativise vite la bonne nouvelle. Option 1, on ferme le robinet du financement public avec des conséquences dramatiques sur des millions de personnes et une vague de misère. Option 2, à l'inverse, on opte pour une grande relance budgétaire et monétaire. Dans ce cas-là, on ne fait sans doute que décaler le problème de la crise financière de quelques mois ou de quelques années. Option 3, on fait la guerre. Oui, la guerre. Alors là, je vous confesse un petit moment de malaise à la lecture du billet, puisque je ne vois pas encore complètement le rapport. Je suis donc allé vite vers l'option 4. Option 4, on engage le changement systémique du capitalisme pour aller vers, je cite, un mode de développement nouveau avec un tout autre rapport à la propriété des biens de consommation et du logement, réduisant à la fois l'endettement et l'empreinte climatique.
Bah écoutez, on voit bien que M. Attali fait de belles prédictions. C'est un bien joli programme tout ça quand même.
Hein. Oui, alors quatre options qui sont soit catastrophiques, soit illusoires. Je suis désolé, il nous reste donc simplement une seule option pour nous. C'est souhaiter que Jacques Attali se trompe juste assez pour que l'apocalypse annoncée n'ait pas lieu.
On espère que comme son confrère designer de vêtements Paco Rabanne, ses prédictions soient fausses. Moi, c'est la seule chose que je souhaite. Une chose qui n'est pas fausse, c'est cette péniche qui navigue sur l'Erdre depuis des années et des années, qui propose aux personnes en situation de handicap de pouvoir voyager. C'est les péniches Cap Vert. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir dans cette émission qui est consacrée au tourisme pour les personnes en situation de handicap, cette belle idée, cette belle association qui permet aux personnes en situation de handicap, en fauteuil ou non, de pouvoir faire une belle balade sur une rivière.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, on est sur un bateau qui s'appelle le Cap Vert. On est avec Monsieur Delanoë, vous êtes le capitaine de ce bateau, c'est vous qui le conduisez. Parlez-nous un petit peu de Cap Vert. Cap Vert, c'est une association qui a pour but de faire naviguer des personnes en situation de handicap.
Tout à fait, c'est exactement ça. Donc l'idée est partie de 1995. On a donc monté une association à plusieurs jeunes. On avait 26 ans de moyenne d'âge à l'époque. Un de l'équipe faisait son objecteur de conscience. Mmh. dans une maison d'accueil spécialisée et faisait aussi à titre personnel en famille du tourisme fluvial, d'où l'idée d'ouvrir le tourisme fluvial à des personnes à mobilité réduite.
Ce bateau, vous l'avez trouvé comment? Ça a nécessité combien de temps pour l'adapter justement aux personnes en situation de handicap?
Donc on n'a pas trouvé de bateau, c'est un bateau qu'on a construit de A à Z, donc on s'est entouré de gens compétents comme les anciens de la navale qui sont sur Nantes, les anciens chantiers du Bigeon, et on s'est encadré aussi de personnes qui étaient dans le social, c'est-à-dire de faire des chantiers d'insertion. Donc d'où l'idée de partir sur un chantier d'insertion pour construire un outil de travail adapté, parce que comme ça on pouvait adapter le bateau à l'handicap et pas faire le contraire. Donc 98 pour le démarrage effectivement du chantier et fin du chantier Coq, on va dire, 2001. Et après encore 3 ans, mais là plus avec du bénévolat, parce qu'il y avait trop de corps de métier à réunir pour finir le bateau. Donc encore 3 ans d'aménagement complet de la péniche.
Alors c'est combien de personnes là? Le bateau va partir pour quelques jours. On va aller tout à l'heure interroger hein, la petite équipe qui est présente aujourd'hui. C'est combien de personnes qui vont faire vivre ce séjour de 3 jours avec ces personnes handicapées?
Donc là, c'est une structure qui propose des séjours. Donc ils font du 1 pour 1. Donc il y a 3 personnes en fauteuil et 3 personnes qui les accompagnent. Nous, en tant que prestataire, on va dire qu'on est 2 en permanence. C'est-à-dire qu'on est là pour tout leur faire, quoi. Ils sont comme un hôtel. C'est-à-dire qu'on leur fait à manger, on les balade. C'est du loisir, quoi, pour eux. Voilà.
Alors vous dites que ce bateau a été conçu justement pour des personnes en situation de handicap. Quels sont les points qui ont été nécessaires d'appréhender pour pouvoir proposer un habitat et un accueil qualitatif?
Donc le premier point, c'est l'accès déjà au bateau, donc une passerelle d'accès. Donc il fallait une passerelle d'accès qui soit, on va dire, aux normes au niveau des passagers, hein, parce que ce sont les personnes qui ont un handicap, c'est des passagers lambda comme tout à chacun. Après, la difficulté, ça va être pour les faire descendre à l'intérieur du bateau. Donc là, l'idée nous est venue de mettre un ascenseur. Donc en fait, la structure du bateau a été conçue avec l'implantation d'un ascenseur à l'intérieur.
Je vous propose qu'on aille visiter votre bateau et puis que vous nous expliquiez un petit peu comment s'organisent les cabines. Voilà, on voit sur cette grande plateforme, on parlait de l'ascenseur. C'est cet ascenseur qui va permettre de desservir pour les personnes handicapées l'ensemble des cabines. On va faire cette visite?
Tout à fait, on y va.
On va prendre l'ascenseur, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc là, ces ascenseurs, c'est finalement c'est presque une vigie sur le pont. Hein.
Déjà, on se pose beaucoup de questions quand on le voit, parce qu'on se demande comment on va rentrer dedans.
Oui, c'est ça, oui. Ah. Comment on va, parce qu'il est petit, hein, ça a plutôt la forme d'une niche d'un gros chien qu'un ascenseur. Alors comment on va rentrer dedans? On va voir ça tout de suite. Voilà, donc la deuxième partie en fait se lève en même temps. Là, la porte est automatisée, elle s'ouvre devant nous. Voilà, et là on est dans un vrai ascenseur. Je rentre le premier?
Allez-y.
Alors justement, dans cette cabine, vous me parliez de normes. Les normes évoluent beaucoup depuis que vous avez lancé la cabine. Il y a des choses que vous devez mettre aux normes régulièrement?
Oui, tout à fait. Mais quand on a construit en fait le bateau, on était au-dessus des normes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pris les normes, on avait pris les normes qui se pratiquaient sur le Rhin et le Rhône à l'époque. Et ça nous a beaucoup aidé par la suite, parce que c'est vrai que les normes ont beaucoup évolué.
Alors là, on rentre dans une salle qui est la salle commune, c'est ça? Donc l'ascenseur donne directement dans une grande salle où il y a des tables. C'est la salle commune, la salle des repas?
Voilà, c'est la salle où on pratique un peu tout, c'est-à-dire les repas, les activités, si j'ai besoin d'en faire, comme des jeux de société. Après, on a la particularité aussi d'avoir dans cette salle 2 rangées de hublots. Une qui permet aux personnes qui sont debout de pouvoir voir dehors à leur hauteur, et puis une deuxième rangée plus basse pour que les personnes en fauteuil aussi puissent voir à l'extérieur sans être en difficulté.
On continue un petit peu la visite. Quels sont les publics qui bénéficient de ces séjours?
Donc le public qu'on accueille, ça va être les maisons d'accueil spécialisées, les IME, les foyers occupationnels. Ça peut être les ESAT aussi, tout ce qui touche un handicap quelconque. Hein. C'est-à-dire qu'on est aussi labellisé au niveau de tourisme handicap. Donc on a les 4 mentions d'accueil pour les quatre handicaps reconnus. On casse tous les rythmes ici, c'est-à-dire que le bateau déjà va pas vite. Les heures de repas sont pas forcément toujours à la même heure. Les repas changent aussi parce qu'ils n'ont pas habitué à cette nourriture-là. On va dire que c'est plutôt de la nourriture industrielle qu'ils vont avoir en permanence. Ici, c'est plutôt une cuisine familiale. Après, ils sont beaucoup, beaucoup dehors. Donc, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus calmes. Sur le canal, il y a des virages tout le temps. Donc, le paysage change tout le temps. Il y a des oiseaux, il y a des gens qui leur disent bonjour. C'est toute une ambiance.
Donc là, on passe dans l'aspect nuit. Alors, il y a déjà les bagages.
Oui, ils viennent juste d'arriver, donc les bagages ne sont encore pas dépliés. Donc, c'est l'endroit du bateau qui va être peut-être le plus exigu, on va dire. Hein. Mais ça reste quand même des couchages assez grands pour un bateau. Hein. C'est-à-dire qu'ils font à peu près 80 de large et puis 1,95 m, on va dire, de long. Donc, c'est déjà des bons couchages. Donc là, on a juste dans cette chambre-là une petite particularité, parce que on a un couchage où on peut installer un lève-personne. C'est-à-dire que le lève-personne peut passer sous ce lit-là, et on a relevé complètement le lit supérieur pour que la hauteur soit suffisante pour pouvoir les aider à se coucher.
Je vais vous laisser peut-être préparer le départ. Moi, je vais remonter sur le pont avec vous, et puis on va aller justement rencontrer ce petit groupe. Et là, on reprend l'escalier. Là, on est au soleil. Rapprochez-vous. Comment vous vous appelez ?
Jean-Paul.
Jean-Paul.
Comme le pape.
Très bien. Et vous ?
Christine.
Christine. Bonjour Christine. Bonjour Jean-Paul. Et le troisième ?
Joël.
Joël. Bonjour. Alors Christine, Jean-Paul et Joël, vous allez naviguer sur ce bateau. C'est la première fois que vous venez sur ce bateau ?
Non.
Non ? Non. Vous êtes venu combien de fois, vous vous souvenez ?
Deux fois.
Vous allez prendre le soleil ?
Oui.
Alors, on a les accompagnateurs et pas les animateurs, comme je les appelais tout à l'heure. Vous représentez quelle structure ?
On est une association de vacances adaptées. Donc, ils proposent des vacances sur plusieurs jours ou même à la journée. Donc là, les trois personnes sont frères et sœurs. Ils voulaient partir ensemble pendant deux jours, faire quelque chose. Et donc, ils nous ont donné quartier libre pour leur organiser une sortie.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces quelques jours
On va se laisser porter par l'équipage. Non, ben, on va faire un petit circuit d'une cinquantaine de kilomètres avec quelques arrêts. Puis, on est en pension complète sur le bateau.
Et finalement, ce qui est formidable avec ce bateau, c'est que c'est comme un hôtel, en fait, finalement. On arrive, on pose ses valises et puis après, on se laisse vivre, c'est ça ?
Voilà, et puis après on va aller faire quelques petites escales, on va aller se promener avec Jean-Paul, Joël et Christine.
D'accord, eh bien, écoutez, on va vous laisser naviguer, moi je vais quitter le bateau, je vais vous le regarder partir du bord du quai, je vous souhaite un bon voyage, bon séjour, bonne croisière et puis à très bientôt. Merci en tout cas de votre attention. C'est parti, bon voyage.
RCF, l'écho des solutions.
Voilà, ainsi s'achève l'écho des solutions de cette semaine autour du tourisme et du handicap. Merci à tous nos invités d'avoir répondu présent. Nous, on se retrouve bien évidemment dans un prochain numéro. La semaine prochaine, on parlera très certainement d'Europe et d'économie. La semaine prochaine dans l'écho des solutions. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast, celles que vous préférez, celles que vous aimez. Et puis, comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, je suppose que vous la partagez, cette émission, autour de vous. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à le faire. Nous, on est toujours ravis de pouvoir continuer à infuser des bonnes pratiques, des acteurs et des actrices du changement au travers de nos programmes, au travers de nos émissions et surtout au travers de vos oreilles. Voilà, l'écho des solutions, c'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite un très très bon week-end du 1er mai à l'écoute de nos programmes. À très bientôt, au revoir. We'll be right back.
Mm-hmm.